Comme vous devriez déjà le savoir, plus longtemps vous restez ici et moins vous vous reposerez. Dormir quand on va dans le monde des rêves n'est pas aussi bénéfique que dans des conditions normales. Encore une fois, n'oubliez pas. Si vous voyez quelque chose d'inhabituel, soyez sur vos gardes.
L'ancienne sage-dame détestait se répéter, et ça s'entendait dans sa voix. Mais avec ses femmes, c'était souvent indispensable. Pourtant, Ninevé aurait pu éviter de leur parler comme à des gosses débiles.
Quand un rêveur normal s'égare un instant en telle aranriode, mais en faisant un cauchemar, il arrive que le cauchemar en question subsiste après son départ. C'est très dangereux, donc fuyez tout ce qui sort de l'ordinaire. Et cette fois, essayez de contrôler vos pensées. Ici, les choses auxquelles on pense deviennent réelles. Le myrdral qui a jailli de nulle part la dernière fois était peut-être le résidu d'un cauchemar. Mais je crois que l'une d'entre vous a laissé vagabonder son esprit. Vous parliez de l'âge noir, vous demandant si ses sœurs avaient laissé des créatures des ténèbres au sein de la tour.
Comme si ça ne suffisait pas, Ninevé crut bon d'ajouter.
Demain, si un blafard déboule au milieu du rendez-vous, n'espérez pas impressionner les matriarches.
Elaine grimaça devant tant d'insolence.
Mon enfant,
dit gentiment Anaya en tirant sur le châle qui venait d'apparaître sur ses épaules.
Tu as fait du très bon travail, mais ça n'excuse pas l'arrogance. On t'a concédé de nombreux privilèges,
rappela Mireille, pas gentiment du tout.
Mais n'oublie pas que ce sont des privilèges, justement.
L'expression de la sœur aurait dû suffire à terroriser Ninevé. Ces dernières semaines, Mireille lui avait mené la vie dure. Et là, les six sœurs arboraient leur châle, un très mauvais signe.
Quand j'étais une acceptée,
renchérit Morvrine.
Une fille parlant de cette façon à une sœur aurait passé un mois à laver les sols, même si elle avait été à la veille de recevoir le châle.
Alors que Ninevé pensait afficher une expression conciliante, il fallait vraiment être elle pour le croire, Elaine prit la parole pour tenter de sauver la situation.
Aï, Sedai, je suis sûre que mon ami ne pensait pas à mal. Nous avons travaillé si dur. Pardonnez-nous au nom de la lumière.
S'impliquer alors qu'elle n'avait rien fait pouvait aider à arranger les choses. Ou leur vaudrait à toutes les deux un mois de corvée. En tout cas, ça incita Ninevé à regarder Elaine et à réfléchir un peu, puisqu'elle baissa les yeux, esquissa une révérence et parvint à faire mine d'être accablée de honte. L'était-elle vraiment ? Là-dessus, Elaine n'aurait pas misé un sou. Faisant comme si sa compagne s'était excusée formellement et avait reçu l'absolution des sœurs, la fille héritière enchaîna.
« Je sais que vous voulez toutes passer le plus de temps possible à la tour. Puis-je suggérer que nous y allions ? Voulez-vous bien imaginer le bureau d'Elaïda tel que vous l'avez vu la dernière fois ?»
À Salidar, on ne parlait presque jamais de la chair d'Amerline quand on évoquait Elaïda. Dans le même ordre d'idées, le nom du bureau avait changé.
« Concentrons-nous toutes, afin d'y arriver en même temps. »
Anaya fut la première à acquiescer, Carlinia et Béonine finissant elles aussi par se laisser convaincre de lâcher leur proie. Les dix femmes se déplacèrent-elles, ou fût-ce le monde des rêves qui bougea autour d'elles? Pour ce qu'en savait Elaine, les deux possibilités pouvaient être exactes. Le monde des rêves étant modelable à l'infini, elles passèrent en tout cas en un éclair d'une rue de Salidar à un grand et luxueux bureau. Encore assez inexpérimentées pour se réjouir quand quelque chose se déroulait sans heurts, les Aes Sedai hochèrent la tête de satisfaction. Aussi sûrement que Tel Aranriod reflétait le monde réel, ce bureau était l'image fidèle du pouvoir des femmes qu'il avait occupé au cours des trois derniers millénaires. Si toutes les lampes dorées étaient éteintes, il y avait pourtant de la lumière, à l'étrange façon des rêves normaux et de Tel Aranriod. Alors que la grande cheminée était en marbre du Candor et le sol en pierre rouge polie importait des montagnes de la brume, les murs avaient été récemment lambrissés, moins de 1000 ans auparavant. Le bois clair aux étranges vénures étant sculpté de tout un bestiaire qui, selon Elaine, sortait tout droit de l'imagination d'un artiste. Une grande porte-fenêtre donnait accès au balcon qui dominait le jardin privé de la chaire d'Amerline. La pierre blanche brillante comme une perle qui encadrait cette arche venait d'une cité au nom oublié qui avait sombré dans la mer des tempêtes durant la dislocation du monde. Depuis, personne n'avait jamais trouvé un matériau qui fût seulement semblable à celui-là. Bien entendu, chaque chaire d'Amerline avait apposé sa patte sur le bureau, au moins pendant son règne. Et Elaïda, si peu légitime qu'elle fût, n'avait pas fait exception à la règle. Derrière une imposante table sculptée se dressait un fauteuil, plutôt un trône, dont le dossier était dominé par une grande flamme de Tarvalon. Sur la table, il n'y avait rien, à part trois coffrets en bois laqué d'Altara, posés à la même distance les uns des autres, au quart de pouce près. Sur un socle très simple, contre un mur, un vase blanc très ordinaire contenait des roses dont le nombre et la couleur variaient à chaque nouveau coup d'œil qu'on leur jetait, mais qui restaient disposées avec une rigidité géométrique glaciale. Des roses, à cette époque de l'année, et avec un temps pareil. Pour les faire pousser, Elaïda avait gaspillé le pouvoir de l'unique. Mais ne faisait-elle pas déjà la même chose quand elle était conseillère de la mère d'Elaine? Au-dessus de la cheminée, une peinture sur toile, la nouvelle mode, représentait deux hommes qui se battaient dans les nuages, des éclairs en guise d'armes. Un des deux adversaires avait un visage de flamme, et l'autre était tout simplement Rande. Présente à Falme lors de ce duel, Elaine pouvait attester que la peinture était assez proche de la réalité. Sur le visage de Rande, la toile était déchirée, comme si on avait lancé dessus un objet de bon poids. Une réparation très habile rendait ce détail presque invisible. Elaïda, semblait-il, tenait à se rappeler en permanence l'existence du dragon réincarné. Et à l'évidence, le voir ne la mettait pas de bonne humeur.
« Si vous voulez bien m'excuser, »
dit Léane avant que les sœurs aient fini de s'ébaubir parce que le transfert s'était bien passé.
« Je vais aller voir si les agents ont bien reçu mes messages. »
À l'exception du blanc, tous les ajats avaient un réseau d'agents, les yeux et les oreilles, qui quadrillaient toutes les nations. Beaucoup d'Aes Sedai en avaient un titre personnel, plus limité, mais Léane était un cas très rare, voire unique. Alors qu'elle était gardienne des chroniques, elle avait créé et développé un réseau à Tarvalon même. Sans attendre de réponse des sœurs, la Domani se volatilisa.
« Elle ne devrait pas aller et venir seule ici, »
maugréa Sheriam.
« Ninevé, suis là et reste avec elle. »
L'ancienne sage-dame tira sur sa natte.
« Je ne pense pas. Oui, oui, comme d'habitude. »
coupa Mirel.
« Pour une fois, si tu faisais ce qu'on te dit au moment où on te le dit, accepté. »
Après avoir glissé un coup d'œil agacé à Elaine, Ninevé acquiesça, se retint miraculeusement de soupirer et disparut à son tour. La fille héritière n'éprouva guère de compassion pour sa compagne. Si Ninevé avait contenu son irritation à Salidar, il aurait été possible d'expliquer aux sœurs que Léane pouvait être n'importe où en ville, qu'il serait presque impossible de lui mettre la main dessus et qu'elle déambulait seule dans le monde des rêves depuis des semaines.
« Voyons un peu ce que nous pouvons apprendre, »
dit Morvrine. Avant qu'une des huit femmes ait pu bouger, Elaïda se matérialisa derrière la grande table, ses yeux noirs brillants de colère. Jolie plutôt que belle, tête brune à l'expression austère portait une robe rouge sang, l'étole rayée de la chair d'Amerline reposant sur ses épaules.
« Comme je l'ai prédit, » dit-elle, « la tour blanche sera réunifiée sous mon autorité, la mienne. »
Elle désigna le sol.
« Agenouillez-vous et demandez pardon pour vos péchés. »
Sur ces mots, elle disparut. Elaine poussa un long soupir et fut rassurée de voir qu'elle n'était pas la seule à réagir ainsi.
« Une prédiction ?»
fit Béonine, le front plissé. Elle ne trahissait aucune inquiétude, mais ça pouvait bien être une façade. Elaïda avait effectivement le talent de prédire, même s'il se manifestait de manière irrégulière. Et quand une femme avait ce talent-là, ce qu'elle annonçait comme devant se produire advenait toujours.
« Un rêve, »
dit Elaine, surprise que sa voix ne tremble pas.
Elle dort, et dans ses songes, les choses se passent comme elle le désire. Lumière, pourvu que ce soit ça. Quelqu'un a remarqué l'étole ?
Demanda Anaya.
Elle avait une rayure bleue.
L'étole de la chair d'Amerline comptait en principe une rayure paraja.
Un rêve,
trancha Sheriam. Elle ne semblait pas effrayée, mais elle portait de nouveau son châle, serrant les pans contre son torse comme Anaya.
Quoi que ce soit,
intervint Morvrine.
Faisons ce que nous sommes venus faire.
Rien ne pouvait effrayer cette femme. La brusque activité qui suivit sa suggestion montra à quel point les autres sœurs s'étaient pétrifiées. Avec Carlinia et Anaya, Morvrine passa dans l'antichambre, où se trouvait le bureau de la gardienne des chroniques. Alviarin Freyden, depuis le coup de force de Laïda, une sœur blanche. Bizarrement, car en principe, la gardienne était toujours choisie au sein de l'aja d'origine de la chair d'Amerline. L'air agacé, Siouan suivit les trois femmes du regard. Selon elle, il y avait souvent plus à glaner dans les documents d'Alviarin que dans ceux de Laïda. Primo, parce que la gardienne semblait parfois en savoir plus long que sa supérieure. Secondo, parce que Siouan, en deux occasions, avait découvert qu'Alviarin s'était permis de revenir sur les ordres de Laïda, apparemment sans que ça ait de répercussions. Bien entendu, l'ancienne chair d'Amerline n'avait pas précisé de quels ordres il s'agissait. Avec Elaine et Ninevé, elle ne jouait jamais totalement franc jeu. Sheriam, Béonine et Mirel se concentrèrent sur la table de travail d'Elaïda. Ouvrant un des coffrets, elles se répartirent les documents qu'il contenait, à savoir la correspondance récente de l'usurpatrice et les derniers rapports qu'elle avait reçus. Dès qu'une des trois femmes oubliait de soulever le couvercle du coffret orné de faucons d'or, celui-ci se refermait. Quant au document, il se modifiait en cours de lecture. Non sans soupirer d'agacement, les trois Aes Sedai ne se laissaient pas décourager par ces tracasseries.
« Un rapport de Danel, »
dit Mirel, tout en parcourant très vite une feuille. Danel, une jeune sœur marron, ayant participé à la cabale qui lui avait coûté son titre, Suan tenta d'approcher de la table, mais Béonin, d'un seul regard, la força à reculer dans un coin tout en marmonnant entre ses dents. Béonin retourna à ses lectures avant que Suan ait fait trois pas, et les deux autres sœurs ne remarquèrent même pas l'incident.
« Danel dit que Matin Stepaneos accepte de grand cœur, que Roedran essaie toujours de ménager la chèvre et le chou, et Caliandre, comme Tailin, demande un peu de temps avant de donner sa réponse. Et Laïda a annoté le texte. Force-les à se presser. »
Le document disparut soudain, arrachant un claquement de langue à Mirel.
Le texte ne précise pas à quel sujet ces gens doivent se décider, mais je ne vois que deux possibilités.
Matin Stepaneos était le roi de Liliane, tandis que Roedran régnait sur le Mourandi. Aliandre, elle, était la reine du Géaldan, et Tailin, celle de l'Altara. Le sujet devait être Rand, ou les sœurs qui s'opposaient à Elaïda.
Au moins nous savons que nos émissaires ont autant de chance que celle d'Elaïda,
dit Sheriam. Bien entendu, Salida n'en avait pas envoyé à Matin Stepaneos. En Iliane, le seigneur Brend du Conseil des Neufs, alias Samael, était le véritable détenteur du pouvoir. Elaine aurait donné cher pour savoir quelle proposition d'Elaïda le rejeter acceptait de grand cœur. Les trois Aes Sedai étaient au moins aussi curieuses qu'elle. Mais nécessité faisant loi, elles étaient déjà passées à d'autres documents.
« Le mandat d'arrêt contre Moiraine est toujours en vigueur, »
annonça Béonine alors que l'unique feuille de parchemin qu'elle tenait se transformait en une épaisse liasse.
« Elaïda ne sait pas que Moiraine est morte. »
Avec une grimace, Béonine laissa tomber le gros dossier, qui se volatilisa avant de toucher le sol.
« Elaïda veut toujours se faire construire un palais.
Voilà qui lui ressemble bien, »
railla Sheriam. Elle saisit ce qui semblait être une simple note et sursauta légèrement.
« Chemerine s'est enfuie. L'accepter, Chemerine. »
Les trois sœurs regardèrent Elaine avant de se tourner vers le coffret, qu'elles durent rouvrir. L'annonce de Sheriam ne fut suivie d'aucun commentaire. Elaine eut bien du mal à ne pas grincer des dents. Avec Nineveh, elle avait informé les sœurs qu'Elaïda avait ramené Chemerine, une sœur jaune, au statut d'acceptée. Bien entendu, personne n'avait cru la nouvelle. Une Aes Sedai pouvait être condamnée à faire pénitence, voire être chassée de la tour. Mais à moins qu'elle ait été calmée, on ne pouvait pas la rétrograder ainsi. Eh bien, quoi qu'en disent les lois de la tour, il semblait qu'Elaïda n'en faisait qu'à sa tête. Peut-être même était-elle en train de réécrire les lois en question. Les sœurs de Salidar s'étaient montrées sceptiques sur bien des informations délivrées par Elaine et Nineveh. À leurs yeux, de si jeunes femmes, par surcroît désacceptées, n'en savaient pas assez long au sujet du monde pour déterminer ce qui était ou non vraisemblable. Crédules et naïves, les jeunettes pouvaient très bien gober toutes sortes de fadaises. Elaine eut une terrible envie de taper du pied. Mais une acceptée devait prendre ce que les Aes Sedai lui donnaient et ne pas réclamer ce qu'elle lui refusait. Par exemple, des excuses. Bouillant à l'intérieur, la fille héritière afficha une équanimité de bon aloi. Suan ne se pliait pas à des contraintes de ce genre, la plupart du temps en tout cas. Quand les Aes Sedai ne la regardaient pas, elle les foudroyait du regard. Bien entendu, si l'une d'entre elles tournait la tête dans sa direction, elle jouait aussitôt les douces et humbles agnelles. « Un lion survit en étant un lion », avait-elle dit un jour à Elaine, « et une souris en étant une souris ». Même dans des conditions difficiles, l'ancienne chère d'Amerline ne faisait pas une bonne souris et manquait singulièrement d'enthousiasme dans ce rôle. Elaine crut lire de l'inquiétude dans les yeux de Suan. Depuis qu'elle avait prouvé aux Aes Sedai qu'elle savait utiliser l'anneau, suite au cours secret que Nineveh et Elaine lui avaient prodigué, ainsi qu'à Léane, et que les rapports étaient une formidable mine d'informations, cette tâche avait été l'apanage de Suan. Reprendre contact avec les agents dispersés dans tous les pays et rediriger leurs rapports vers Salidar prenait du temps. Si Sheriam et les autres décidaient de s'en charger, Suan risquait de devenir bien moins utile. Avant qu'elle arrive à Salidar, avec tout ce qu'une chère d'Amerline savait sur les yeux et les oreilles de la tour, en particulier sur les agents de l'Aja Bleu qu'elle dirigeait avant d'accéder au poste suprême, jamais un réseau n'avait été dirigé par quelqu'un d'autre qu'une sœur en pleine possession de son pouvoir. Béonine et Carlinia répugnaient ouvertement de dépendre d'une femme qui n'était plus une des leurs, et les autres n'étaient pas loin de partager leur opinion. À la vérité, aucune d'entre elles n'était très à l'aise en compagnie d'une femme calmée. Elaine se sentait tout aussi inutile que Suan. Si les Aes Sedai appelaient ses expéditions des leçons, il aurait été très mal vu, elle le savait d'expérience, qu'elle tente de leur apprendre quelque chose sans qu'elle l'ait demandé. Présente pour répondre à d'éventuelles questions, elle n'avait aucune autre fonction. Pensant à un tabouret aux pieds sculptés de feuilles de vigne, elle le fit apparaître et s'assit dessus. Une chaise aurait été plus confortable, mais ça aurait pu lui attirer des réflexions. Une acceptée trop confortablement assise était souvent prise pour une acceptée qui se prélassait. Après un moment, Suan invoqua aussi un siège de ce genre. Avec un petit sourire pour la fille héritière et un regard courroucé aux Aes Sedai, elle s'assit pour attendre. La première fois qu'Hélène était venue dans la version onirique du bureau, 6 ou 7 tabourets semblables étaient disposés en demi-cercle devant la table de travail. À chaque visite, ce nombre avait diminué pour arriver à 0. À l'évidence, c'était significatif de quelque chose. Oui, mais de quoi ? Suan pensait sûrement comme elle, et elle avait sans doute sa petite idée sur le pourquoi de la chose. Mais bien entendu, ça n'était pas pour les oreilles de Ninevée ou de la fille héritière.
« Au Chienard et en Arafel, »
murmura Shériam.
« Les combats cessent peu à peu, mais il n'y a toujours rien pour expliquer leur cause. Des escarmouches, certes, mais les gens des terres frontalières ne se battent pas entre eux. La flétrissure leur suffit. »
Shériam était originaire du Saldaea, une des terres frontalières.
« Au moins la flétrissure est toujours calme, »
dit Myrel.
« Presque trop calme. C'est une bonne chose que l'Aïda ait beaucoup d'agents dans les terres frontalières. »
Suan fit la grimace et en même temps lorgna sans aménité les Aes Sedai. Hélène aurait parié qu'elle n'avait pas encore réussi à contacter ses agents d'État frontalière, qui n'étaient pas à la porte à côté de Salidar.
« Je me sentirais mieux si on pouvait en dire autant du Tarabon, »
dit Béonine. Les feuilles qu'elle tenait devinrent plus longues et plus larges. Après y avoir jeté un coup d'œil, elle les lâcha et reprit.
« Les agents du Tarabon sont muets, tous, et l'Aïda n'a aucune nouvelle de ce pays, à part des rumeurs venues d'Amadicia, selon lesquelles des Aes Sedai sont impliqués dans la guerre. »
Béonine secoua la tête, accablée qu'on puisse coucher sur du parchemin des absurdités pareilles. Les sœurs ne s'impliquaient jamais dans les guerres civiles, en tout cas pas assez ouvertement pour que ça se sache.
« Il y a seulement une poignée de rapports, très confus, sur la Raddoman. Sur le Tarabon, nous saurons tout assez tôt par nous-mêmes, »
dit Shériam.
« Encore quelques semaines. »
L'examen des documents dura des heures, car le coffret laqué ne se vidait jamais. En fait, plus on le vidait, et plus il semblait contenir de textes. Comme toujours, seuls les plus courts restaient stables assez longtemps pour être lus en entier. Mais parfois, une lettre ou un rapport déjà étudié sortait de nouveau du coffret. Entre de très longues périodes de silence, les Aes Sedai s'autorisaient un commentaire, voire une brève conversation sur un sujet ou un autre. Comme si rien de tout ça ne l'intéressait, Suan jouait à un jeu de ficelle pour passer le temps. Hélène aurait bien aimé le limiter, par exemple en lisant, et un livre apparut en effet sur le sol. Les voyages de Jane Explorateur. Mais Hélène le fit promptement disparaître. Une femme comme Suan avait en effet plus de latitude aux yeux des Aes Sedai qu'une acceptée destinée à devenir un jour une sœur. En tendant l'oreille, la fille héritière glana quelques informations. L'implication d'Aes Sedai au Tarabon n'était pas la seule rumeur à avoir atteint le bureau de l'Aïda. Pedron Nihal avait bel et bien ordonné que les Cas Blanches se rassemblent. Pourquoi ? Eh bien, c'était là que les rumeurs se déchaînaient. Pour s'emparer du trône de l'Amadicia, affirmaient certaines. Un coup de force dont Nihal n'avait à coup sûr nul besoin. Pour mettre un terme aux guerres et à l'anarchie au Tarabon et en Arad-Doman, suggéraient d'autres. Pour soutenir Rand, prétendaient enfin les plus folles. À celle-ci, Hélène y croirait le jour où le soleil se lèverait à l'ouest. Des rapports signalaient d'étranges événements en Ilian et au Kairien, et peut-être ailleurs, car les Aes Sedai étaient loin d'avoir vu tous les textes de ce genre. Des villages entiers frappés de folie, des créatures de cauchemar arpentant le monde, un veau à deux têtes doté de la parole, des créatures des ténèbres jaillissant de nulle part. Shériam et ses deux compagnes passaient très vite sur ces informations-là. Les mêmes histoires, venant de l'Altara, du Mourandi et de l'Amadicia, sur l'autre berge du fleuve, atteignaient régulièrement Salidar. Les Aes Sedai les tenaient pour des manifestations d'hystérie chez des gens traumatisés par l'existence du dragon réincarné. Hélène ne partageait pas cet avis. Même si les sœurs étaient plus âgées et plus expérimentées qu'elles, la fille héritière avait vu des choses qui les auraient stupéfiées. Morgaz, sa mère, était, disait-on, en train de lever une armée dans l'ouest du royaume d'Andorre. Sous l'antique étendard de Manéthérène, bien entendu. On racontait aussi qu'elle était prisonnière de Rand, ou qu'elle avait fui dans toute une série de pays, y compris les terres frontalières et l'Amadicia, cette dernière hypothèse étant purement inimaginable. Apparemment, la Tour Blanche ne croyait aucune de ces fantaisies. Hélène, elle, aurait aimé savoir ce qu'elle aurait dû croire. Elle cessa de s'inquiéter pour sa mère quand elle entendit Shyam prononcer son nom. Pas pour s'adresser à elle, mais en lisant à haute voix un petit carré de parchemin, qui devint très vite un long rouleau au pied duquel étaient apposés trois sceaux. Il fallait retrouver Elaine Tracande et la ramener à tout prix à la tour. En cas de nouvel échec, les responsables envieraient le sort de maîtresse Makura. Elaine frissonna au souvenir de cette affaire. Sur le chemin de Salidar, une couturière nommée Ronde Makura avait failli les envoyer à la Tour Blanche comme de vulgaires ballots de linge sale destinés à la buanderie. La maison royale du royaume d'Andorre, continua à lire Shyam, était la clé. Une phrase énigmatique. La clé de quoi? Aucune des trois Aes Sedain ne daigna tourner la tête vers Elaine. Après s'être consultées du regard, elles reprirent leurs recherches. Avait-elle oublié jusqu'à la présence de la fille héritière? Peut-être que oui, et peut-être que non. Les Aes Sedain n'en faisaient qu'à leur tête. Si elle devait être gardée loin d'Elaïda, il en serait ainsi. Et si elle finissait livrée pieds et poings liés à l'usurpatrice, elle n'aurait pas son mot à dire non plus. Le brochet ne demande pas son avis à la grenouille avant de la gober. Encore un des proverbes de Ligny. La réaction d'Elaïda à l'amnistie décrétée par Rand était évidente, si on se fie à l'état du rapport qui la lui annonçait. Elaine imagina très bien l'usurpatrice en train de froisser la feuille entre ses mains, brûlant d'envie de la déchirer, puis la lisser froidement et la ranger dans le coffret. Les colères d'Elaïda étaient presque toujours froides. Si elle n'avait rien écrit sur ce document, en revanche, elle en avait annoté un autre qui recensait les Aes Sedai présentes dans la tour. Sa note prouvait qu'elle était presque décidée à déclarer publiquement que les sœurs absentes seraient considérées comme des renégates si elles n'obéissaient pas à son ordre de rentrer sur le champ au bercail. Shyam et ses deux compagnes commentèrent calmement leur découverte. Quel que soit le nombre de sœurs qui obéiraient, certaines auraient un long chemin à faire, et d'autres ne devaient pas encore avoir reçu la convocation. Cela dit, un tel décret confirmerait au monde entier que la tour était divisée. Pour envisager une démarche pareille, Elaïda devait être au bord de la panique, ou folle de colère au point d'en perdre le sens commun. Elaine eut un frisson glacé. Pas parce que Elaïda s'angoissait ou bouillait de rage. 294 sœurs présentes à la tour soutenaient l'usurpatrice. Un tiers du nombre total d'Aes Sedai, et presque autant que les dissidentes rassemblées à Salidar. Le mieux qu'on pouvait espérer, c'était sans doute que le tiers restant se divise en deux factions égales. Après des arrivées massives à Salidar, le torrent était devenu un ruisselet. Mais la tour connaissait peut-être le même phénomène. En tout cas, il était possible de le croire. Après un nouveau silence, Beonin s'exclama.
« Elaïda a envoyé des émissaires à Randaltor !»
Elaine bondit sur ses pieds. Sur un signe de Siouan, un peu bizarre parce qu'elle n'avait pas réussi à faire disparaître assez vite sa ficelle, elle parvint de justesse à tenir sa langue. Shyam voulut prendre la feuille que lui tendit Beonin, mais la lettre se transforma en trois autres documents.
« Quand ont-elles quitté Tarvalon ?»
demanda Myrel.
« Et pour où sont-elles parties ?»
lança Shyam en même temps. « Une tempête dans un ciel serein, aurait-on dit. »«
Pour Kaerien, »
répondit Beonin.
« Je n'ai pas vu quand elles sont parties, à supposer que c'était mentionné. Et dès qu'elles auront découvert où est Rand, ses sœurs fileront sûrement vers Kemlin. »
Même dans cette configuration, c'était une bonne nouvelle, car il fallait environ un mois pour aller de Kaerien à Kemlin. À coup sûr, la délégation de Salidar arriverait la première. Chaque soir, Elaine sortait la carte qu'elle avait cachée sous son matelas afin d'estimer la progression de cette expédition.
Elaïda paraît disposée à soutenir Rand,
continua Beonin.
En tout cas, elle lui proposait, et elle lui offre de le faire escorter jusqu'à la tour.
Shyam fronça les sourcils de perplexité.
C'est absurde,
lâcha Myrel.
Elaïda appartenait à l'Aja Rouge.
Une chair d'Amerline était de tous les Ajas et d'aucun. Cela dit, personne ne renonçait ainsi à son identité.
« Cette femme est prête à tout !»
marmonna Shyam.
« Rand pourrait trouver cette proposition attrayante. Nous pourrons peut-être faire parvenir un message à Egwen par l'intermédiaire des Aiel. »
avança Myrel. Siouan eut une quinte de tout très mal feinte, mais Elaine en avait trop entendu. Avertir Egwen était essentiel, bien sûr, car les sbires d'Elaïda, si elle la découvrait à Kaerien, risquaient de la ramener pieds et poings liés à la tour, et pas pour y être fêtée. Mais le reste...
Comment pouvez-vous croire que Rand prête à l'oreille au propos de Laïda? Pensez-vous qu'il ignore d'où elle vient? Ou qu'il ne sait pas ce qu'est l'Aja Rouge? Ces femmes n'ont aucune intention de le soutenir, et vous le savez. Il faut l'avertir.
Une contradiction affaiblissait ce discours. Pourquoi prévenir Rand s'il savait? Et la fille héritière en avait conscience. Mais l'inquiétude avait pris le contrôle de sa langue. S'il arrivait quelque chose à Rand, elle ne survivrait pas.
« Comment suggères-tu que nous fassions ça, accepter ?»
demanda Shyriam. Avec la bouche ouverte, Elaine eut soudain peur de ressembler à un poisson. Mais que pouvait-elle répondre ? Par bonheur, elle fut sauvée par un cri lointain que ponctuèrent des exclamations dans l'antichambre. Bien qu'elle était la plus proche de la porte, les autres étaient sur ses talons quand elle la franchit. La pièce était vide. Sur le bureau de la gardienne, des piles de documents et des rouleaux de parchemin s'entassaient, et quelques sièges, disposés le long d'un mur, attendaient d'accueillir d'éventuelles visiteuses. Anaya, Morvryn et Carlinia n'étaient nulle part en vue, mais un des battants de la porte donnant sur le couloir était encore en train de se refermer. Un autre cri de femme retentit. Pressés de sortir dans le couloir, Shyriam, Myrel et Béonine faillirent renverser Elaine. Si spectrales qu'elles paraissent, les trois sœurs se révélèrent rudement solides au contact.
« Soyez prudente !»
cria Elaine. Consciente qu'il n'y avait rien d'autre à faire, elle releva l'ourlet de sa robe et partit sur les traces des trois sœurs, Suan lui emboîtant le pas. Elles découvrirent une scène de cauchemar, au sens propre du mot. À une trentaine de pas sur leur droite, le couloir au mur tendu de tapisserie se transformait en une grotte qui semblait s'étendre à l'infini, sa profonde obscurité déchirée çà et là par la lueur de plusieurs feux et de braseros. Et dans cette caverne, des trolloques grouillaient comme de la vermine, leurs visages bien trop humains grotesquement altérés par un museau, une gueule, un bec ou des défenses, et leurs crânes surmontés de cornes ou d'une crête emplumée. Les monstres les plus éloignés semblaient plus flous que les plus proches, comme s'ils n'étaient qu'à moitié formés. Ceux des premiers rangs, en revanche, étaient tous des géants deux fois plus grands qu'un homme et bien plus massifs que les trolloques du monde réel. Vêtus de cuir noir et de cottes de mailles hérissées de piques, ils tournaient en beuglant autour de feux de cuisson, de grands chaudrons, de râteliers d'armes, d'étranges cadres dotés de pointes et d'encore plus étranges formes métalliques. C'était bel et bien un cauchemar, mais bien plus vaste que ceux dont Elaine avait entendu parler par Egwen ou par les matriarches. Une fois détachés de l'esprit qui les avait générés, ces horreurs pouvaient errer dans le monde des rêves ou au contraire se fixer à un endroit particulier. Les aïeuls les détruisaient sans presque y penser, tant c'était devenu un réflexe, mais comme Egwen, elles avaient conseillé à la fille héritière de les éviter quand elles en voyaient. Hélas, Carlinia avait dû penser à autre chose quand Nineveh et Elaine lui avaient transmis ce conseil. La sœur blanche, pieds et poings liés, pendait par les chevilles au bout d'une chaîne, dont l'extrémité n'était pas visible au cœur de la voûte obscure. L'aura du Saïdar l'entourait encore, mais elle se débattait et hurlait, tandis qu'on était en train de la faire descendre lentement dans un énorme chaudron noir rempli d'huile bouillante. À l'instant où Elaine déboula dans le couloir, Anaya et Morvryn s'immobilisèrent à l'endroit où la sinistre grotte commençait à remplacer l'environnement familier de la tour. Après être restés une seconde comme pétrifiés, leurs silhouettes brumeuses semblèrent s'allonger en direction de cette bizarre frontière, telle de la fumée aspirée par une cheminée. Inexorablement, elles furent entraînées dans le cauchemar, Morvryn hurlant de douleur tandis que deux trolloques, en faisant tourner de grandes roues de fer, la forçaient à s'étirer de plus en plus. Anaya pendait déjà par les poignets, des monstres dansant autour d'elle et la frappant avec des fouets dont la lanière à bout métallique réduisait en lambeaux ses vêtements.
« Il faut nous lier !»
dit Shyriam. L'aura qui l'entourait vint s'unir à celle de Myrel et de Béonine. Même ainsi, sa brillance restait très loin de celle qu'émettait dans le monde réel une seule femme connectée à la source.
« Non !»
cria Elaine.
« Ne faites pas comme si c'était réel. Au contraire, il faut... »
Elle prit le bras de Shyriam, mais le flux de feu que les trois femmes avaient tissé, très faible bien qu'elle fût liée, venait de toucher la ligne de démarcation entre le rêve et le cauchemar. Ce tissage se volatilisa aussitôt, à croire que le cauchemar l'avait absorbé, et les trois Aes Sedai furent à leur tour aspirés comme du brouillard quand le vent se lève. Au contact de la frontière, elles disparurent. Puis Shyriam se rematérialisa à l'intérieur du cauchemar, la tête émergeant de ce qui semblait être une grande cloche métallique noire. Sur la surface externe de l'horrible machine, des trolloques actionnaient des poignées et des leviers, arrachant des cris de douleur à l'Aes Sedai, dont la chevelure rousse oscillait follement, tandis qu'elle secouait la tête avec la rage du désespoir. Aucune trace des deux autres sœurs. Mais dans le lointain, Elaine entendit des cris qui lui permirent d'imaginer ce qui leur était arrivé.
« Tu te souviens de ce que nous t'avons appris au sujet des cauchemars ?»
demanda Elaine à Suan.
« La manière de les conjurer ?»
Les yeux rivés sur la scène qui se déroulait devant elle, Suan acquiesça.
« Nier leur réalité. Se représenter en pensée ce que serait l'environnement s'il n'était pas là. »
C'est là que Shyriam avait commis une erreur, et toutes les autres Aes Sedai aussi. En tentant d'utiliser le pouvoir contre le cauchemar, elles avaient accepté sa réalité, et cette simple façon de penser les avait précipités dans le piège, d'où elles ne sortiraient pas avant de s'être rappelé la bonne manière de procéder. Si on se fiait à l'intensité de leurs hurlements, ça n'était pas sur le point de se produire.
« Le couloir !»
murmura Elaine, tout en essayant de visualiser l'aspect qu'avait ces lieux la dernière fois qu'elle les avait vus.
« Il faut penser au couloir tel qu'il est d'habitude. »« J'essaye, ma fille !»
grogna Xuan.
« Mais ça ne donne aucun résultat !»
Elaine soupira, accablée. L'ancienne chère d'Amerline avait raison. Rien n'avait changé dans la grotte. Au-dessus du linceul de métal qui emprisonnait son corps, la tête de Shariam semblait maintenant vibrer. Morvryn criait comme si on la démembrait, ce qui était exactement le cas dans le cauchemar. Et les cheveux de Carlinia n'étaient plus qu'à quelques pouces de la surface bouillonnante de l'huile. La concentration de deux femmes ne suffisait pas contre un mauvais rêve de cette dimension.
« Nous avons besoin des autres !»
souffla la fille héritière.
« Léane et Nineve, même si nous savions où les trouver, Shariam et les autres seraient mortes avant que... »
Xuan s'interrompit.
« Tu ne veux pas parler de ces deux-là, pas vrai ? Tu penses à Shariam, mais... »
Trop effrayée pour parler, Elaine se contenta de hocher la tête.
« Ma fille, je doute qu'elle nous entende ou même qu'elle nous voit. Aucun Trolloc n'a tourné la tête vers nous. Conclusion, il va falloir essayer en étant à l'intérieur. »
Elaine acquiesça de nouveau.
« Petite, »
fit Xuan,
« tu as le courage d'une lionne et l'intelligence d'un martin pêcheur. Cela dit, je ne vois pas que faire d'autre. »
Elaine approuvait tout ce que venait de dire Xuan, à part sur son courage. Si ses genoux n'avaient pas été comme bloqués, elle se serait bien roulée en boule sur le sol, dont les carreaux composaient toutes les couleurs des ajats. Soudain, elle s'avisa qu'elle brandissait une longue épée brillante, qui ne lui aurait été d'aucun secours même si elle avait su comment s'en servir. Elle lâcha l'arme, qui se volatilisa avant d'atteindre le sol.
« Attendre n'arrangera rien !»
dit-elle. En revanche, ça laisserait le temps de se dissiper au peu de détermination qui lui restait. Ensemble, Xuan et la fille héritière traversèrent la ligne de démarcation. Dès qu'elle eut posé le pied dessus, Elaine eut le sentiment d'être devenue de l'eau qui coule dans un tuyau, aspirée par une force invisible. Une fraction de seconde plus tard, elle se retrouva étendue sur le ventre sur un sol de pierre grise rugueuse, les chevilles et les poignets attachés au creux des reins, et devenue partie prenante du cauchemar qu'elle s'était jusque-là contentée d'observer. Désormais, la grotte semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions, et le couloir de la tour n'était plus en vue. Des cris montaient de toutes parts, se répercutant le long des murs et de la voûte constellée de stalactites. À quelques pas de la fille héritière, un grand chaudron noir bouillonnait au-dessus d'un feu rugissant. Un Trolloc à la gueule de sanglier, défense comprise, s'affairait à y jeter ce qui semblait être des racines. La base d'un ragoût. Les monstres mangeaient absolument n'importe quoi, même les êtres humains. Elaine imagina qu'elle était libre, mais les cordes continuèrent à mordre la chair de ses poignets et de ses chevilles. L'aura du Saïdar, si pâle fut-elle, ne l'enveloppait plus. Ici, la source authentique n'existait plus pour elle. Un véritable cauchemar dans lequel elle était piégée. La voix de Xuan, voilée par la douleur, domina le vacarme des cris.
« Shariam, écoute-moi !»
Ne pouvant voir les autres, Elaine aurait été en peine de dire ce qu'on infligeait à l'ancienne chair d'Amerline.
« C'est un rêve ah !»
Un hurlement succéda à ces mots.
« Oui, un rêve !»
Un autre hurlement.
« Pensez à tout ce qui devrait être !»
Elaine prit le relais.
« Shariam, Anaya et les autres, écoutez-moi ! Pensez au couloir tel qu'il devrait être, à sa réalité ! Cette grotte n'existe que parce que vous la croyez réelle !»
De nouveau, la fille héritière se remémora le couloir, son sol en mosaïque de couleurs, ses lampes dorées et ses tapisseries. Rien ne changea, et les cris continuèrent à retentir.
« Pensez au couloir ! Voyez-le dans votre esprit et il réapparaîtra ! Si vous me faites confiance, nous sortirons de ce piège !»
Le Trolloc cuisinier regarda Elaine. À présent, il tenait un couteau à découper.
« Shariam, Anaya, concentrez-vous ! Vous aussi, Myrel et Béonine !»
Le Trolloc approcha d'Elaine et la tourna sur un côté. Elle tenta de se débattre, mais un énorme genou se plaqua sur elle, l'immobilisant sans peine. Comme s'il était un chasseur qui dépaisse un cerf, le cuisinier entreprit de découper les vêtements d'Elaine.
« Carlinia, Morvryn, concentrez-vous pour l'amour de la lumière ! Pensez au couloir ! Vous toutes, le couloir ! Le couloir !»
En marmonnant quelque chose dans un langage guttural qui n'était pas conçu pour sortir d'une gorge humaine, le monstre remit sa proie sur le ventre, puis l'immobilisa de nouveau en s'agenouillant sur elle.
« Le couloir !»
Une main saisit les cheveux d'Elaine, lui tirant la tête en arrière.
« Le couloir ! Pensez au couloir !»
La lame du couteau se plaqua sur la carotide d'Elaine, juste sous son oreille gauche.
« Le couloir !»
La lame se mit en mouvement, entaillant la peau. Et Elaine se retrouva en train de contempler de grands carreaux de couleur, juste sous son nez. Portant les mains à sa gorge, elle s'émerveilla qu'elle ne soit plus entravée, puis sentit un liquide chaud et ramena ses doigts devant ses yeux. Du sang, oui, mais seulement un filet. C'était passé près. Si le Trolloc avait eu le temps de l'égorger, aucune guérison n'aurait pu la sauver. Tremblant de tous ses membres, la jeune femme se releva péniblement. Elle était dans un couloir de la tour, devant le bureau de l'usurpatrice, et il n'y avait plus l'ombre d'une caverne ou d'un Trolloc. Pauvre corps torturé dans une robe en lambeaux, Siouan était avec elle, ainsi que les Aes Sedai, spectrales au point de paraître prêtes à se désintégrer. En moins piteux état que les autres, Carlinia était debout, mais tremblait comme une feuille. Les yeux écarquillés, elle tâtait ses cheveux désormais très courts, car ils avaient trempé dans l'huile et brûlé. Roulés en boule sur le sol, Shiryam et Anaya ressemblaient à des ballots de linge. Assise mais recroquevillée sur elle-même, Mirel était nue comme un ver et couturée de plaies de la tête aux pieds. Comme si ses articulations ne fonctionnaient plus normalement, Morvryn gémissait à chaque fois qu'elle bougeait. À genoux, sa robe déchiquetée, Béonine haletait et s'appuyait à un mur pour ne pas tomber. Elaine s'avisa que sa robe, proprement fendue en deux, pendait des deux côtés de ses épaules. Un chasseur qui dépèce un cerf. Tremblant elle aussi, elle eut un instant peur de s'écrouler. Réparer sa tenue serait bien entendu un jeu d'enfant, une simple affaire de pensée. En revanche, elle ignorait combien de temps il lui faudrait pour oublier ses horreurs.
« Il faut rentrer !»
dit Morvryn en s'agenouillant près de Shiryam et d'Anaya. Malgré sa raideur anormale et ses gémissements, elle paraissait aussi détachée que d'habitude.
« Nous avons besoin d'une guérison, et aucune d'entre nous n'est en état de le faire. »
approuva Carlinia en touchant de nouveau ses cheveux.
Il serait préférable de retourner à Salidar.
Dans le ton de la sœur, la glace habituelle semble avoir subi le même sort que ses cheveux.
Si vous êtes toutes d'accord, je vais rester encore un peu.
Proposa Siouan du ton plein d'humilité qui lui allait si mal. Sa robe était de nouveau intacte, mais ses plaies demeuraient.
Avec un peu de chance, j'apprendrai des choses très utiles. Je n'ai que quelques contusions, et je me suis déjà fait pire en tombant dans un bateau.
On dirait plutôt qu'un bateau t'est tombé dessus.
Fit Morvryn.
Mais reste si ça te chante.
Je reste aussi,
intervint Elaine.
Je peux aider Siouan, et je n'ai pas été blessée.
À part l'entaille sur sa gorge, qu'elle sentait à chaque déglutition.
Je n'ai pas besoin d'aide,
grogna Siouan.
Tu t'es très bien comporté ce soir, mon enfant,
dit Morvryn.
Ne gâche pas tout. Tu rentres avec nous.
Elaine capitula. Contester n'aurait servi à rien, sinon à lui attirer des ennuis. On eût dit que la sœur marron était le professeur et elle l'élève. Les Aes Sedai pensaient sans doute qu'elle avait été aspirée dans le cauchemar, à leur instar.
N'oubliez pas que vous pouvez sortir directement du monde des rêves et réintégrer votre corps. Il n'est pas nécessaire de retourner d'abord à Salidar.
Impossible de dire si ce conseil avait été entendu.
Patience, Shiryam,
dit Morvryn en se tournant vers la sœur rousse.
Nous serons à Salidar dans quelques instants. Courage, Anaya.
Même s'il gémissait encore, Shiryam ne pleurait plus.
« Carlinia, tu veux bien aider Mirel? Et toi, Béonine, tu es prête? Béonine !»
La sœur grise sursauta, regarda Morvryn et finit par hocher la tête. Puis les six Aes Sedai disparurent. Avec un dernier regard pour Siouan, Elaine les imita. Mais elle ne réintégra pas son corps à Salidar. Tôt ou tard, à condition de l'avoir remarqué, quelqu'un viendrait soigner sa blessure au cou. Et l'attention se focaliserait d'abord sur les six sœurs, qui allaient se réveiller dans un piteux état, comme s'ils avaient été broyés par les rouages de quelque monstrueuse horloge. Elaine avait donc quelques minutes de répit et une destination en tête. Bizarrement, le hall d'honneur du palais de sa mère peina à se matérialiser autour d'elle. Non sans lutter contre une étrange résistance, la jeune femme parvint finalement à se retrouver dans la grande salle au sol blanc et rouge, sous l'imposante voûte soutenue par des rangées de colonnes blanches. Comme toujours, la lumière semblait jaillir de nulle part, et de partout à la fois. À cette heure tardive de la nuit, les grands vitraux, qui représentaient en alternance le lion blanc d'Endor, les premières reines et des scènes de victoire, étaient à peine visibles. Au premier coup d'œil, Elaine vit les nouveautés qui avaient compliqué sa venue dans la salle, puisqu'elle faussait ses souvenirs. Au fond du hall, sur l'estrade, là où aurait dû se dresser le trône du lion, on avait installé une grandiose monstruosité tape à l'œil, composée de dragons or et écarlate en émail et en métal, qui arborait en guise d'yeux de gros éclats d'une rare variété de quartz. Le trône de Morgaz n'avait pas disparu. Derrière et au-dessus du grotesque siège, il reposait sur une sorte de piédestal. Elaine traversa la salle et gravit les marches de l'estrade, afin de voir de plus près le trône doré de la reine d'Endor. Le lion blanc incrusté de pierres de lune sur un champ de rubis, qui tenait lieu de dossier, aurait dû surplomber la tête de sa mère.
« Que fais-tu donc, Grandaltor? Que penses-tu réaliser ?»
Sans elle à ses côtés, pour l'empêcher de tomber dans toutes les chausse-trappes, elle craignait que le jeune homme multiplie les erreurs. Avec les Théariens, il s'en était très bien tiré, et avec les Kyrianiens aussi, d'après ce qu'on disait. Mais les Andoriens étaient différents. Des gens francs et directs, un rien mal dégrossi, et qui avaient horreur d'être manipulés ou bousculés. Ce qui avait fonctionné à Théar ou aux Kyriennes pouvait ici exploser la figure de Rand comme le feu d'artifice d'un illuminateur. Si elle avait pu être avec lui, l'avertir au sujet de la délégation de la tour. Elaïda avait dû prévoir un piège qui se déclencherait quand il s'y attendrait le moins. Serait-il assez fin pour le voir à temps? Pour ne rien arranger, Elaine n'avait aucune idée des consignes reçues par la délégation de Salidar. Malgré les efforts de Siouan, les Aes Sedai restaient très partagés au sujet de Rand. Certes, il était le dragon réincarné, sauveur de l'humanité selon les prophéties, mais également un homme capable de canaliser et donc condamné à la folie, à la destruction et au meurtre.
« Prends soin de lui, mine. Rejoins-le vite et veille sur lui. »
Songeant que Mine aurait les mains libres pour faire tout ce qu'elle voulait avec Rand, Elaine eut un passement au cœur de jalousie. Elle serait peut-être obligée de partager Rand, et certaines choses n'appartiendraient qu'à elle. Coûte que coûte, elle ferait de lui son champion.
« Je le jure, »
dit-elle en tendant une main vers le trône du lion. La manière de prêter serment des reines depuis que le royaume existait. Le piédestal était trop haut pour qu'elle touche le siège, mais l'intention seule comptait.
« Oui, je le jure. »
Le temps pressait. Bientôt, à Salidar, une Aes Sedai viendrait la réveiller pour guérir sa ridicule plaie au cou. Elaine soupira d'agacement, puis elle réintégra son corps. Demandred sortit de l'ombre des colonnes, regarda les deux trônes, puis l'endroit où la jeune femme s'était évaporée. Elaine Trakande, s'il ne se trompait pas, venue en utilisant un terrain gréal de mauvaise qualité, sinon elle n'aurait pas été si spectrale. Un artefact conçu pour entraîner des débutants. Le rejeté aurait payé cher pour connaître les pensées de la fille héritière, mais ce qu'il avait vu et entendu était déjà très significatif. Elaine Trakande détestait ce que Randaltor faisait à son pays, et elle entendait s'opposer à lui. Une jeune femme déterminée, semblait-il. Dans tous les cas, un autre fil de tirer dans la trame, même si l'attraction finissait par se révéler plutôt faible.
« Que règne le seigneur du chaos ?»
lança Demandred aux deux trônes, même s'il regrettait toujours de ne pas savoir pourquoi il devait en être ainsi. Puis il ouvrit un portail et quitta Tel Aran Riyodh.